Eh bien, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis heureux de vous voir ici, à l'église de l'Action biblique, donc rue du Rouet. Pendant cette expo Bible, il y a plusieurs conférences, et donc c'est la deuxième. La première, c'était « Est-ce que la Bible est fiable ?» Et donc, on avait vu à quel point les manuscrits et tout ce qui, la cohérence interne de la Bible prouve que c'est un livre digne de foi, que la Bible n'est pas un livre qui a été falsifié, qui n'est pas un livre complètement aléatoire, mais que tout a été préservé d'une façon extraordinaire au cours des siècles grâce aux copistes qui ont fait un travail de fidélité remarquable et grâce à la préservation des manuscrits qui, selon moi, est miraculeuse parce qu'il y a tellement de manuscrits anciens de la Bible qui ont été retrouvés qu'il y a un miracle là derrière parce que Dieu voulait qu'on ait sa parole, la Bible. Et donc aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez vu, la Bible et l'archéologie. C'est quelque chose que j'ai étudié un peu tout mon ministère depuis plus de 30 ans. Je me suis toujours passionné de l'archéologie. J'ai été en Israël, j'ai pu voir les choses de mes yeux aussi. Bien sûr, il n'y aura pas toute la Bible et l'archéologie. Il y aurait des centaines d'heures et d'images à montrer. J'ai fait un résumé ancien et nouveau testament, un petit peu chronologique. Et puis après la conférence, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout, je ne suis pas archéologue moi-même, mais en tout cas, on essaiera si vous avez des questions brûlantes sur la Bible. Donc, une définition, il faut toujours définir les choses. Qu'est-ce que l'archéologie ? C'est l'étude de l'Antiquité, principalement à partir de fouilles, de sites anciens. Donc, c'est des gens qui sont allés sur le terrain fouiller. C'est ça, les archéologues. Ce sont des historiens, les archéologues, mais qui basent leur recherche sur des objets plutôt que sur des écrits. Il y a des historiens qui sont dans leur bureau et qui lisent tous les livres possibles et imaginables. Et puis, il y a les archéologues, eux, ils vont sur le terrain. Alors, heureusement, il y en a qui font les deux. Mais en tout cas, c'est ça, l'archéologie, l'étude de l'Antiquité. Archéo, hein, l'Antiquité. Qui nous intéresse parce qu'on veut savoir comment était l'humanité il y a des centaines d'années, des millénaires. Pour avoir une idée un peu de où, dans quelle date nous nous trouvons, c'est important d'avoir une chronologie. Si on suit la chronologie de la Bible, Noé a vécu autour de 3000 ans avant Jésus-Christ. Quand vous avez le « moins », ça veut dire avant Jésus-Christ, c'est plus facile. Moins 3000, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Abraham, environ 2200 ans avant Jésus-Christ. Joseph, 1900 ans avant Jésus-Christ. Moïse et Josué, 1500 ans avant Jésus-Christ. David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Le schisme entre Judas et Israël, 978. Le dernier roi être déporté, Ézéchias, 722. Et puis la grande déportation à Babylone, 586. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, la Bible du Nouveau Testament, le grec, le Seigneur Jésus a probablement né autour de moins 5. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais Jésus n'est pas né en l'an 0. Ça, c'est une certitude. C'est une erreur d'historien antique de mettre la naissance de Jésus en l'an 0. Il est né probablement 5 ans avant l'an 0, puisqu'il est né juste avant la mort du roi Hérode. Il est mort probablement, on n'est pas sûr, là encore, vers l'an 33. Les apôtres ont écrit à partir des années 50, donc quelques années après la résurrection, jusqu'aux années 80-90 pour l'apôtre Jean. Les quatre évangiles sont venus à peu près avec un peu après même les lettres des apôtres, parce que quand les apôtres sont morts, il y avait besoin de mettre par écrit les paroles de Jésus et la vie de Jésus. Tant que les apôtres étaient vivants, ils pouvaient dire, ben oui, Jésus nous a dit, nous avons vu Jésus faire ceci. Ils étaient des témoins oculaires. Mais quand les apôtres sont morts, il y avait besoin de sceller ce témoignage par écrit. Et c'est pour ça que les quatre évangiles ont été écrits un peu après, environ à la même époque quand même. Tout ça était terminé, tout le Nouveau Testament était terminé avant l'an 100 de notre ère. Alors, quand on lit des ouvrages ou on va sur Internet, il y a beaucoup de gens qui disent, certains qui disent, oui, le Nouveau Testament, les évangiles datent de 200 après Jésus-Christ, etc. Bon, alors, il y a beaucoup de gens qui mélangent tout. Ça, ce sont des chiffres vraiment prouvés et approuvés par des historiens, des manuscrits du Nouveau Testament. On a des traces, on a des preuves que l'Apocalypse ou les autres épîtres étaient écrites avant l'encens. L'Apocalypse étant le dernier livre du Nouveau Testament. Alors, pourquoi l'archéologie biblique ? Parce que la Bible est toujours très attaquée. Attaquée dans le sens, oui, la Bible, c'est un livre de légende, c'est un vieux livre, il a été falsifié. Il y a toujours plein de gens qui critiquent la Bible. C'est fou, on ne critique pas les écrits des grands philosophes grecs, on ne critique pas les écrits de Jules César. On s'attaque toujours à la Bible. Pourquoi ? Ben, parce que ça se présente comme la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu, ça nous fâche. On dit, mais non, ça ne peut pas être la parole de Dieu, parce qu'on n'aime pas, Dieu naturellement. Et donc, on s'attaque à la Bible pour dire, non, elle n'est pas la parole de Dieu. Et bien, Dieu répond bien souvent. Par exemple, il y en a juste l'exemple des Éthiens. Dans la Bible, ils sont appelés les Éthiens, mais en fait, nous, aujourd'hui, on les appelle les Hittites. La civilisation Hittite est une grande civilisation près de la Turquie, en Asie mineure. Ici, vous avez un vestige de la capitale, Hattusa. Alors, c'est très peu connu. Même, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hattusa, la capitale des Hittites. Ce n'est pas très connu. Mais en fait, c'est une grande civilisation perdue un peu, mais dont on a retrouvé des vestiges. Or, avant qu'on retrouve ces vestiges assez récemment, qu'est-ce qu'on disait ? Oh, ben, la Bible, elle nous parle des Éthiens. Qui c'est ces Éthiens ? C'est encore un truc inventé par les écrivains de la Bible. Ils ont totalement inventé un peuple qui n'existe pas. Et en fait, résultat, on les a retrouvés, ce peuple. Et ils existaient bien. Ils étaient très présents autour d'Israël, d'ailleurs. Un autre exemple, la ville de Ninive. Alors, on savait qu'il y avait une ville de Ninive, mais la façon dont la Bible le décrit comme une immense capitale de l'Empire assyrien, avec sa chute, etc., là aussi, les historiens disaient, oh, bah, voilà, la Bible, ils en rajoutent toujours. C'est comme les Parisiens critiquent les Marseillais d'en rajouter toujours. On disait, les écrivains de la Bible, ils en rajoutent. Et puis, un Anglais est allé fouiller en plein désert d'Irak, et il a trouvé la ville de Ninive. Et plus ils ont fouillé, plus ils ont vu que c'était une immense capitale extraordinaire qui a été brûlée il y a bien longtemps. Et ils ont découvert que le récit biblique collait tout à fait avec les vestiges qu'on a trouvés. Et la réponse de Jésus à tout ça se trouve dans Luc chapitre 19. Des pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples, parce que les disciples louaient Jésus, il disait, tu es notre Seigneur, notre Dieu. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Alors, quand Jésus dit ça, il ne parle pas d'archéologie. Il dit, « Je ne peux pas dire à mes disciples de se taire parce que la nature, la création va crier que je suis le Fils de Dieu puisqu'il est le Fils de Dieu. » Mais aujourd'hui, a posteriori, on pourrait dire, mais Jésus prophétisait quelque part l'archéologie. Parce que les pierres au Moyen-Orient crient que la Bible est vraie. Et presque vous vous retournez une pierre et vous avez un vestige là, que ce soit en Israël ou en Irak, beaucoup en Irak évidemment, là où était Babylone, et puis dans d'autres pays, en Égypte évidemment, les pierres crient que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est vraie, qu'elle ne raconte pas des légendes. Alors, les premiers archéologues, c'est intéressant, l'archéologie est une science assez récente. Les premiers archéologues, ce n'étaient pas des scientifiques ni des historiens. C'était des riches Anglais ou Français, il y avait les Français aussi, aventuriers. Donc, quand vous étiez très riche, que vous n'aviez pas besoin de travailler, il fallait dépenser son argent. Je pense que les riches ont toujours ce problème aujourd'hui. Comment je vais dépenser mon argent ? Mais ça, c'était des gens qui croyaient en la Bible, qui avaient une foi sincère, mais ils se sont dit, et si on allait au Moyen-Orient, chercher les vestiges de l'Ancien Testament de la Bible. Et donc, ils sont allés avec des équipes, ils ont loué des ouvriers sur place, et ils ont creusé. C'est comme ça qu'on a trouvé Ninive, par exemple. Alors, le fondateur de l'égyptologie, on le verra, c'est un Anglais, par exemple, mais là, Sir Henry Rawlinson a fait une découverte fabuleuse en 1822. Alors, fabuleuse pour les archéologues. Pour vous et moi, c'est moins intéressant. Mais c'est le rocher de Behistun. Ce rocher contient le récit d'une bataille en trois langues. Et l'une des langues, c'est l'écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme, c'est une des plus anciennes écritures qui soit. Elle date des Sumériens, donc 5 000 ans avant Jésus-Christ. Et on ne savait, on avait plein de tablettes avec de l'écriture sumérienne, mais personne ne savait les lire, évidemment, jusqu'à ce que ce rocher nous permette de déchiffrer le sumérien et les tablettes qui ont rapport à la Bible. On va le voir, le rapport entre les tablettes et la Bible. Et puis, celui que vous connaissez peut-être mieux, Champollion, qui a accompagné un grand empereur qui s'appelait qui a accompagné Napoléon en Égypte. Et Napoléon voulait faire de la science à son époque, 19e siècle déjà, et Champollion était un savant, et ils ont découvert une pierre, la pierre de Rosette, une grande stèle, avec, pareil, un récit en trois langues, et la troisième langue, c'était les hiéroglyphes. Personne ne pouvait lire les hiéroglyphes sur les monuments égyptiens, et on était frustrés. Eh bien, grâce à cette pierre de Rosette, on a pu comprendre ce que voulaient dire les hiéroglyphes. Or, les hiéroglyphes ne sont pas des mots. Chaque image est un son. Et quand vous associez les sons, vous avez des mots égyptiens. On connaissait l'égyptien parler, on comprenait les égyptiens quand ils parlaient. Mais les hiéroglyphes, c'est de l'égyptien avec des oiseaux, des lotus, avec des images. C'est une forme unique, un petit peu en son sens, d'écriture, et qu'on ne pouvait pas déchiffrer. Maintenant, on peut grâce à Champollion. Un autre pionnier, c'était donc, comme je vous ai dit, Flinders Petrie, qui était un des premiers à aller en Égypte pour comprendre la civilisation égyptienne, comprendre les pyramides et faire des fouilles abondantes. Parfois, certains de ces, pas ceux-là, mais certains Anglais venaient piller les tombes. Malheureusement, il y a eu des pilleurs de tombes qui ont fait un mauvais travail d'archéologue. Ce n'est pas le but de l'archéologue. Alors, pour l'archéologie biblique moderne, il y a un Américain, William Albright, qui a vraiment été fondateur. Au début, comme je vous ai dit, l'archéologie biblique, c'était j'ai ma Bible, elle me parle de choses, je vais chercher en Irak, en Égypte, si je trouve cette ville ou ce village. Ou, voilà. Et puis, à un moment, elle s'est professionnalisée, l'archéologie, avec M. Albright, où ils ont dit, bon, maintenant, il faut faire un travail d'historien. Il ne faut pas juste aller avec sa Bible comme ça. Il faut avoir des preuves, il faut avoir des éléments. Donc, c'est comme ça que l'archéologie biblique est devenue une science extrêmement sérieuse grâce à lui. Alors, prenons un peu dans le sens de la chronologie avec la Genèse, le premier livre de la Bible, récit de la création et du déluge. On a trouvé des milliers, mais vraiment des milliers de tablettes en Irak avec cette écriture étrange qu'on a pu déchiffrer, donc, comme je vous ai dit, le sumérien. Donc, il faut savoir que l'écriture est aussi ancienne que l'être humain. L'écriture a environ 6000 ans, comme la civilisation humaine. Au moment où la civilisation apparaît, il y a l'écriture en même temps. Donc les hommes savent écrire, savent poser leurs pensées sur des matériaux. Les premiers matériaux, c'était au Moyen-Orient des pierres d'argile. Ils avaient des stylets très pointus qui permettaient de faire des traces. Parfois, c'était de l'argile moue, parfois c'était de la pierre dure. Et c'est comme ça qu'elles sont restées depuis des millénaires et qu'on les a retrouvées. Les Égyptiens, eux, ils utilisaient quel support pour écrire ? Est-ce que vous le savez ? Le papyrus, hein, donc c'est des feuilles d'un arbre que l'on sèche, que l'on compresse pour faire une sorte de feuille. Sauf que le papyrus est très fragile, ça ne supporte pas le temps, l'humidité, et donc les papyrus ont beaucoup été perdus, tandis que les pierres, elles, sont restées. Alors, une découverte, par exemple, étonnante, un sceau. Un sceau, on a trouvé des milliers, peut-être des millions, je ne sais pas. C'était quoi les sceaux ? C'était pour signer les choses, pour mettre votre nom. Aujourd'hui, on signe hein, avec notre stylo. Maintenant, on ne sait même plus, c'est terminé les stylos. Mais à l'époque, on signait avec un sceau. Un sceau, donc c'était un petit truc tubulaire, là, et on le roulait dans une encre, et puis ça faisait quelque chose, ou on le roulait dans l'argile. Et donc, on le gardait soit sur son doigt, soit dans une poche quelconque. C'était tout petit, mais ça permettait de faire des grandes images ensuite quand on les étalait dans l'argile ou avec de l'encre. Et là, il y a un sceau. Regardez, alors, vous ne voyez peut-être pas bien, mais vous avez un arbre au milieu, hein. Vous avez une femme, un homme, et vous avez un serpent. Donc ça nous fait quand même penser à un récit de la Genèse. Ce sceau est daté de 2300 avant Jésus-Christ, donc c'est bien avant Abraham, donc c'est très vieux, et il vient de la Mésopotamie, donc là où était le jardin d'Éden. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une image du jardin d'Éden, mais le fait, ce thème de l'homme, la femme, l'arbre et le serpent, c'est quelque chose qui était déjà en existence il y a Donc si on ajoute 2003 et 2020, ça fait 4000 ans. Alors, une grande découverte, ça a été l'épopée de Gilgamesh, encore du sumérien, une tablette qui a été déchiffrée. Donc, elle était dans un musée, et puis le jour où on a pu déchiffrer le sumérien, on l'a ressortie, on dit, mais c'est fascinant. Elle raconte l'histoire d'un roi, Uruk, de Gilgamesh, qui vivait 3000 ans avant notre ère, et elle décrit un déluge universel. Elle dit, il y a eu un déluge. Les dieux ont puni les hommes et ils sont tous noyés. Et Dieu a appelé un roi, un sauveur qui s'appelait Utnapishtim, et il lui a dit de construire un bateau. Il a construit un bateau, il a été sauvé. Donc on a trouvé ça en dehors de la Bible. Hein. C'est quand même totalement en dehors de la Bible. Alors, comment les historiens interprètent ça aujourd'hui ? Le plus connu, c'est Jean Bottero. Vous avez peut-être entendu parler de Jean Bottero. Il est décédé maintenant, un chercheur français. Il a dit, ça prouve que la Bible a copié les Babyloniens. C'est-à-dire que la Bible est juste une copie de l'épopée de Gilgamesh. Alors peut-être, pourquoi pas ? Voyons voir. Comment est l'arche de Gilgamesh, le bateau ? C'était un cube de 61 mètres sur 61 mètres. Est-ce que vous pensez qu'un cube, sans être marin, ça va bien flotter dans l'eau ? Personnellement, je ne crois pas. Et les marins peuvent vous le confirmer. Un cube comme ça, il va se retourner, vous n'allez pas durer longtemps dans un cube. Alors, pourquoi 61 mètres sur 61 mètres ? C'est comme ça, c'est l'épopée de Gilgamesh. Si vous regardez le récit biblique où il y a les mensurations de l'arche, vous avez un bateau comme ça. Ça, ça flotte. Ça, c'est comme un tanker aujourd'hui. Hein. Les bateaux les plus solides sur la mer, ce sont les tankers. Ils résistent à des tempêtes extraordinaires, ceux qui transportent, vous savez, hein, soit du pétrole, soit des... Containers, n'est-ce pas ? Merci. Ils passent dans des mers très compliquées. Et le fait qu'ils soient longs, ça ne les empêche pas de bien naviguer. Et le but de l'Arche de Noé n'était pas de naviguer, c'était juste de flotter. Et de, bien sûr, d'emporter les hommes et les animaux pour les protéger du déluge. Donc, la Bible est beaucoup plus réaliste dans son arche que l'épopée de Gilgamesh. On a trouvé une pierre... Là encore, parlant de Gilgamesh et des rois sumériens, cette pierre contient une liste de rois sumériens et la liste dit « avant le déluge et après le déluge ». Et donc, on voit que cette idée d'un déluge en Mésopotamie a marqué l'histoire et que ce n'est pas juste une légende et que la Bible est celui qui l'écrit le mieux parce que dans le déluge de Gilgamesh, les dieux d'abord, c'est les dieux, c'est plusieurs dieux. Ils sont énervés parce que les hommes font du bruit comme des mouches. Ça fait bzz, 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 bzz. C'est tel quel. Hein. Je l'ai lu, l'épopée, elle a été traduite en français. Et ils disent, oh, ils nous énervent, on va tous les détruire. Et puis, il y a un des dieux, donc il décide de détruire les dieux en cachette, enfin, c'est-à-dire de ne pas les prévenir. Mais il y a un des dieux qui dit, quand même, il faut en prévenir un. On va prévenir Utnapishtim, donc c'est le Noé des Babyloniens. Et donc, c'est grâce à ça que Utnapishtim reçoit des instructions pour se sauver du déluge. Mais dans la Bible, ce n'est pas ce truc un peu gamin de gamin. C'est que la Bible raconte en Genèse que la terre était de plus en plus corrompue. Il y avait de la violence dans le cœur des hommes. Il dit, le cœur des hommes se tournait chaque jour exclusivement vers le mal. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, mais la terre va être complètement corrompue. Les hommes vont s'entretuer, il n'y aura plus d'êtres humains. Il a décidé donc de purifier, de juger la terre et de sauver tous ceux qui voudraient entrer dans l'arche. Donc Dieu a dit, on va construire un grand bateau, tous ceux qui entrent dedans seront sauvés. Malheureusement, il n'y a eu que Noé et sa famille. Ça fait penser un peu à notre époque, hein, où il y a de plus en plus de mauvaises pensées, de mauvaises actions, et il faut se sauver de cette génération. Alors, on a retrouvé dans le monde entier des récits d'un déluge universel envoyé par Dieu, avec un bateau qui permet de se sauver. On les a retrouvés en Mésopotamie, donc ça on l'a vu, mais aussi en Grèce, en Inde, chez les Mayas, en Chine, chez les aborigènes d'Australie, en Afrique, en Polynésie, donc quasiment sur tous les continents, même en Australie, on trouve une histoire d'un déluge causé par les dieux. Et ça, c'est quand même quelque chose de frappant. C'est pas juste en Irak, en Mésopotamie, c'est pas juste en Israël, c'est dans le monde entier qu'il y a cette histoire. Un jour, les dieux ou le dieu a décidé de juger le monde par un grand déluge. Alors, on continue dans la Genèse et il y a un, un savant qui a étudié la région de Sodome et Gomorre, donc c'est près de la mer Morte. Alors si jamais vous avez été, vous voyez des images, comme vous voyez une photo là, enfin on ne voit pas très bien, mais c'est comme ça, hein. C'est un désert absolu, c'est du sel, du sable et du soufre. Il n'y a rien qui pousse là, il n'y a rien qui vit. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Eh bien, ce savant a découvert que ce n'était pas le cas du tout. Il a creusé, lui, creusé, et ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y avait des villages avec des cultures de blé, de légumes. Il y avait des canaux d'irrigation, ce qui correspond d'ailleurs au texte biblique. Et il est dit que le neveu d'Abraham, Lot, a choisi la région de Sodome et Gomorre. Et il dit que c'était une terre irriguée. Et l'irrigation, c'est par les hommes, hein, c'est pas juste qu'il pleuvait. Et donc, lui, il a trouvé ces canaux d'irrigation, ces villages, et il a même trouvé des vestiges de blé, de graines. Mais tout ça, c'est à des dizaines de mètres sous la terre, sous ce sable. Hein. Ce qui montre qu'il y a eu quelque chose de cataclysmique qui s'est passé. Ils ont trouvé, alors là, il n'y a pas d'image pour ça, j'en ai sur un autre ordinateur, mais ils ont trouvé un vestige d'un village antique aussi, du temps d'Abraham, et même avant, où tout le village a brûlé soudainement, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être causé par le feu. C'est tellement brûlé que ça devient comme du verre. Ça devient ça veut dire qu'il y a eu des milliers de degrés. Alors les historiens, les archéologues se sont dit, mais comment il peut y avoir des milliers de degrés Et ils ont trouvé deux possibilités. Ça peut être volcanique ou ça peut être une météorite. Ils ont dit une météorite qui tombe peut créer un cataclysme avec une chaleur de plusieurs milliers de degrés. Quoi qu'il en soit, c'est une région qui a été marquée par un immense cataclysme, et ce qui confirme le récit de la Bible. On a trouvé aussi à Ur, donc en Irak, cette magnifique sculpture d'un bélier en or et lapis-lazuli qui est coincé dans un arbuste. Alors on pourrait dire c'est intéressant, c'est joli. Et je l'ai vu, ce bélier, je pense que c'était au British Museum à Londres. Mais ça correspond à ce que la Bible dit en Genèse 22. Lorsqu'Abraham doit sacrifier son fils, au dernier moment, Dieu dit, bien sûr, ne tue pas ton fils. Et il y a un bélier qui est coincé dans un buisson. Donc ce thème du bélier dans le buisson existait déjà depuis longtemps. À Ur, là, la ville d'Abraham, quand même. On a retrouvé la ville d'Abraham. La ville de naissance, hein, puisqu'Abraham ensuite a été jusqu'au pays de Canaan, Israël. Les ruines d'Ur donc, sont très intéressantes, découvertes par un Anglais en 1922, et elles confirment bien tout ce que dit la Genèse. Notamment, il y a ce temple, on le voit un petit peu au fond là, qu'on appelle une ziggourate. C'était la façon dont ils faisaient les temples, et ça fait penser à la tour de Babel. Les ziggourates, ce sont d'immenses temples avec des escaliers qui montent le plus haut possible. Et l'autel des sacrifices était tout en haut. Et donc la tour de Babel ressemble à une ziggourate où on essayait d'atteindre le ciel, hein, et de toucher le ciel pour atteindre la divinité. Alors, si vous avez lu le livre de Israël Finkelstein, un archéologue israélien, la Bible, je le connais en anglais, Unearthed, la Bible découverte ou quelque chose comme ça. Non, pas déchiffré, non, c'est pas la vie déchiffrée. Bon. Et Arte, donc la chaîne Arte, on a fait un documentaire basé sur son livre et sur ses recherches. Et dans ce livre et dans ses recherches, ils disent que la Bible ne peut pas être vraie parce qu'elle parle de chameaux domestiqués au temps d'Abraham, alors que les chameaux n'ont été domestiqués que bien plus tard. Et donc, ils vous affirment ça. Vous êtes monsieur tout le monde, madame tout le monde. Ben, les archéologues le disent, les historiens le disent, Arte le dit. Donc, il y a un problème, la Bible s'est trompée, là. Si la Bible s'est trompée ici, peut-être qu'elle s'est trompée ailleurs. Et si elle s'est trompée ailleurs, peut-être qu'il n'y a rien de vrai dans la Bible. Donc, ça a des implications importantes, rien que cette histoire de chameaux, là. Sauf qu'on a trouvé que les chameaux étaient bien domestiqués au temps d'Abraham. Donc, il y a plusieurs vestiges. Là, il y en a un exemple, hein, un sceau de moins 1800 retrouvé en Syrie. Et vous voyez donc des hommes montés sur un chameau en Syrie. Donc le chameau, il est par là. Hein. Abraham enterre sa femme à Hébron, donc en Israël. À l'époque, c'était Canaan, dans un tombeau à Macpéla. et on a retrouvé ce tombeau. Aujourd'hui, il est grandiose. Hein, je l'ai visité. Vous avez la tombe de Sarah, la femme d'Abraham et d'Abraham. Et c'est extraordinaire d'être là où Abraham et Sarah ont été enterrés 2000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, on passe à la période de l'Exode jusqu'à Josué. Israël donc est esclave en Égypte, on connaît tous un peu cette histoire, et ils sortent par la mer Rouge. Alors bien sûr, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'images qui sont, ils ont traversé la mer Rouge. D'abord, la mer Rouge dans la Bible n'est pas la mer Rouge, c'est la mer des roseaux. C'est en fait un passage beaucoup moins profond que la mer déjà, mais qui avait quand même, c'était quand même une sorte de lac. Hein. Et en plus, la configuration a complètement changé depuis l'histoire biblique. Le Nil est tout le temps en train de bouger, en fait. Le Nil est en inondation, sécheresse, et tout change. Donc, on ne peut pas savoir exactement où ils ont pu passer. Mais grâce au récit de l'Exode, on sait quand même que les villes qui sont mentionnées dans l'Exode ont existé et que c'est tout à fait vraisemblable qu'ils soient passés à cet endroit-là. Alors, on a trouvé, par contre, beaucoup de vestiges de Sémites, donc les descendants de Sem, comme étaient Moïse hein, et les Hébreux, en Égypte. On les voit ici, hein, donc à gauche, en train d'avenir avec des animaux pour faire des offrandes aux Égyptiens. Les Égyptiens, c'était le plus grand empire de la région, et les Sémites venaient faire du commerce ou se soumettre aux Égyptiens. Et puis, on a trouvé aussi un peuple qui travaillait pour les Égyptiens, et ils sont appelés par les Égyptiens les Hapirous. Hapirou, en fait, ça pourrait être les Hébreux. C'est la façon de dire des Hébreux. Parce qu'à cette époque-là, les Juifs s'appelaient les Hébreux. Et donc, on a trouvé des Hapirous qui faisaient des briques, et notamment des briques avec de la paille, exactement comme le dit le livre de l'Exode. Donc ça, c'est une image, mais il y en a d'autres, hein, de Sémites qui sont en train de construire les villes. Et c'était l'époque où les pharaons voulaient se faire construire des grandes villes et des grands palais pour se faire mousser, si je puis dire. On a trouvé un papyrus de l'époque des Hyksos, qui n'était pas des Égyptiens, justement, c'est un peuple étranger aux Égyptiens qui ont régné en Égypte. Et le papyrus Ipuwer nous parle de plaies qui ont frappé l'Égypte et qui correspondent beaucoup, mais pas totalement, aux fameuses 10 plaies d'Égypte données par Dieu sur l'Égypte du Pharaon. Et donc, on voit que ces histoires de plaies-là ont marqué les Égyptiens, puisqu'il y a un papyrus qui en parle encore. Ce n'est pas forcément les plaies de la Bible, mais c'est des plaies qui ressemblent en plusieurs points. On a retrouvé les villes par lesquelles sont passés les Israélites, les Hébreux, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont passé par plusieurs villes. Python est mentionné en Exode. On a retrouvé, aujourd'hui, ça s'appelle Tel El Retaba. Alors, j'en profite. Si vous ne connaissez pas du tout l'archéologie, les archéologues ils recherchent des tels. Un tel, T-E-2-L, c'est un petit monticule. Pourquoi ils recherchent des tels? Parce qu'avec le temps, une ville est enterrée par le sable. Et il y a des couches. Alors parfois, la ville est reconstruite. Donc il y a une deuxième couche. Et ensuite, il y a du sable dessus. Et ça fait finalement un monticule. Et les archéologues, ils sont obsédés par les petites montagnes. Et ils veulent creuser dedans, parce qu'ils disent qu'il doit y avoir un village, une ville, une maison, quelque chose. Et alors, des fois, il n'y a rien, c'est juste un monticule. Mais souvent, ils trouvent, et ça s'appelle un tel. Voilà. C'est pour ça que c'est là qu'on trouve beaucoup de vestiges de villes antiques. Et plus on creuse, plus on va loin dans le temps. On a retrouvé Soukhot, qui est mentionné en Exode 12, hein, Tel El Mashkouta. On a retrouvé l'oasis aux 70 palmiers. Il y a encore des palmiers, encore aujourd'hui. On a retrouvé aussi des cailles dans le désert du Sénaï. Encore aujourd'hui, les cailles, les oiseaux, hein, passent au-dessus du désert. Si vous connaissez l'histoire de l'Exode, à un certain moment, les Israélites ont dit « On en a assez de manger la manne, on veut manger de la viande. » Et Moïse a dit « On va prier. » Et Dieu a dit « D'accord, vous voulez de la viande, je vais vous envoyer des cailles. » Mais en fait, il y a toujours des cailles dans le désert du Sinaï qui survolent, qui migrent. Hein. Et donc là, elles devaient voler très bas, et puis ils n'avaient qu'à les attraper. Et le texte dit qu'ils ont mangé tellement de cailles qu'ils étaient dégoûtés des cailles. Ça, c'est l'être humain. Et il réclame à Dieu, puis quand Dieu lui donne, il se plaint. C'est le cœur tortueux de l'être humain. Au temps de Josué, c'est la conquête du pays promis, la terre promise, Canaan, qui allait devenir Israël. Et la première ville à conquérir, c'est Jéricho, une ville fortifiée habitée et par des soldats et des habitants, avec une grande fortification tout autour. Le texte biblique dit que les Israélites n'ont pas combattu. Ils ont fait le tour de la ville pendant 7 jours, et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. À la fin des 7 fois, selon l'ordre de Dieu, ils ont crié. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont crié, mais probablement victoire ou alléluia. Ou... voilà. Et à ce moment-là, les fortifications sont tombées, et ils n'avaient plus qu'à rentrer dans la ville. Alors, il y a eu plusieurs archéologues qui se sont succédés sur le site de Jéricho. Vous voyez ici des images du site. Et ils ont confirmé, donc vous voyez là, c'était quand même très épais, c'était impossible que les Israélites puissent passer, sauf s'il y avait un effondrement. Ils ont trouvé un effondrement des briques vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Et ils ont dit, comment expliquer ça? Normalement, quand vous attaquez, vous défoncez la muraille. Mais ils n'ont pas défoncé la muraille. La muraille est tombée. Probablement un tremblement de terre envoyé par Dieu a fait tomber la muraille. Ils n'avaient plus qu'à rentrer. Et ensuite, après, on a retrouvé beaucoup de grains brûlés. On a trouvé beaucoup de choses brûlées. Cette ville a été brûlée selon le récit biblique. Alors après, il y a toute une histoire autour de Jéricho. Je ne vais pas m'attarder. Il y a un premier archéologue qui a dit « Oui, ça correspond à la Bible ». Et il y a une deuxième archéologue qui l'a suivi, une femme, une anglaise, qui a dit « Non, ce n'est pas la bonne date. Au temps de Josué, il y avait pas cette ville n'existait pas. Donc ça ne peut pas être Josué qui est venu là. » Alors tout le monde était « Ah bon ? D'accord. » Et puis un troisième archéologue vient derrière elle, des années après, toujours, et il refait des calculs, il dit « Mais si, c'était la bonne date. » Donc l'archéologie, ça reste quand même une science inexacte. Et moi, mon but, ce n'est pas de vous prouver que Dieu existe avec l'archéologie. Ce n'est pas vous prouver que nous avons raison et que tout le monde a tort. Ce n'est pas ça, mais c'est pour éclairer la Bible et confirmer quand même que ce qu'il y a dans la Bible est basé sur des choses historiques, réelles. La Bible n'est pas un livre de mythes, de mythologie. C'est un livre basé sur une histoire réelle avec des personnages réels qui ont existé. Parlons de David. Ceux qui attaquent la Bible disent « David n'a jamais existé, Salomon n'a jamais existé, tout ce qui est avant, Esdras, n'a jamais existé. » Donc Esdras est un scribe juif des années du 8e siècle. Donc avant le 8e siècle, avant Jésus-Christ, Israël, c'est juste des bergers qui élèvent des brebis. Il n'y a pas de grand roi, il n'y a pas de grand territoire. Tout ça, c'est des légendes. Alors, quand vous entendez ça, là encore, vous êtes impressionné. Mais j'ai appris qu'il y avait David et Goliath, j'ai appris qu'il y avait Moïse, tout ça, c'est faux, alors. Et puis, l'archéologie permet de trouver des choses. Une stèle de moins 800 mentionne la maison de David. David, c'est en moins 1000 à peu près. Donc, maison de David, quand même. Une stèle d'un pharaon égyptien, Merneptah, 1220. Donc ça, c'est bien avant Esdras, tout ça, mentionne le nom d'Israël, parce que les Égyptiens avaient beaucoup de contacts avec le peuple d'Israël. Et il y avait des guerres entre eux, il y avait parfois des paix, des échanges commerciaux, comme encore aujourd'hui, Israël a des échanges et des guerres avec ses voisins. On a retrouvé, alors, le nom de Dieu Yahvé, donc ça, c'est une pierre vraiment étonnante. Encore une fois, un hiéroglyphe égyptien, trouvé au Soudan, moins 1400, donc c'est un peu après Moïse. Et dessus, donc, vous avez un texte sur ce hiéroglyphe, les Sazous de Yeshua. Donc les Sazous de Yeshua. C'est un peuple que les Égyptiens connaissaient et qui avait pour Dieu Yeshua. Alors c'est fort quand même. Ça veut dire que le nom de Dieu était connu par un peuple qui s'appelait les Chazous. Alors, qui c'est les Chazous? Est-ce que c'est les Israélites? C'est peut-être des Sémites. C'est peut-être une tribu d'Israël qui était en contact avec ces Égyptiens à cette époque-là. La Bible, dans le livre des Nombres, parle de Balaam, le faux prophète qui était fils de Béor et qui était justement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. La Jordanie n'existait pas. Et on a trouvé en Jordanie, en 1967, une inscription avec des imprécations de Balaam qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est bien après Balaam, mais c'est quand même très antique. Et c'est un mur où vous avez les imprécations du prophète Balaam. Et il prononce un jugement sur la ville. Donc, ça montre que l'histoire d'un faux prophète Balaam a marqué la région de Jordanie, hein, où il a vécu, et qu'il y a encore des traces archéologiques. Ce n'est pas une légende de la Bible. Après, on arrive à l'époque des rois d'Israël, quand les Israélites sont bien installés. Alors, bien sûr, eh bien, on a trouvé à Jérusalem la cité de David. Elle est en pleine fouille. Il y a une abondance d'objets qui sortent de ces fouilles à Jérusalem. C'est magnifique, en plus, quand on les visite, on peut marcher. C'est d'une grande beauté. On voit bien que le palais de David, ce n'était pas une petite cabane de berger. Hein. C'est un palais, quoi. C'est un roi. Donc, David n'est pas un personnage mythologique ou légendaire. Il a bien régné sur Jérusalem. Jérusalem, qui était une ville qui s'appelait Jébus, et que David a appelée ensuite Yerushalayim, la ville de la paix. Dans la Bible, dans le deuxième chapitre des rois, il est question du roi Ézéchias qui a construit un bassin et un tunnel pour amener de l'eau dans la ville de Jérusalem. Parce que lors de plusieurs guerres, Jérusalem avait été environnée d'ennemis et il n'avait plus d'eau pour boire. Et quand vous n'avez plus d'eau, ben vous mourrez, vous ne pouvez plus résister aux ennemis. Ils se sont dit, il faut qu'on ait une source d'eau cachée que les ennemis ne voient pas et qu'il pourra nous abreuver pendant la guerre. Et donc, Ézéchias a dit, d'accord, on va construire... Je sais où il y a une source, parce que Jérusalem est en hauteur. En bas, il y a une source, et on va faire un tunnel, et on va faire un moyen de communication pour que l'eau remonte, etc. Et sans outils modernes, ils ont construit ce tunnel. Regardez la pierre que c'est une sorte de granit, là. Et ils ont réussi à faire ce tunnel magnifique que l'on peut visiter, et qui permettait d'amener de l'eau, découvert en 1838, 530 mètres de long. On peut dire, oui, à cette époque-là, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Ben, si, si. Ils savaient faire un tunnel de 530 mètres de long, sans pelleteuse et sans outils modernes. Et en plus, ils allaient tout droit. Hein. On sait bien que les Égyptiens, les Babyloniens, hein, avaient des constructions extraordinaires, avec des techniques qu'aujourd'hui, qui nous époustouflent, on ne sait même pas comment ils faisaient. Après, sur le livre des rois, il y a une pierre qui s'appelle le prisme, parce que c'est en forme de prisme. C'est magnifique, en plus, cette pierre rouge, qui, dans les ruines de Ninive, la fameuse ville de Ninive, le roi d'Assyrie, le fameux roi Sennacherib ou Sankerib, au 7e siècle, qui parle de sa victoire sur le roi Ézéchias, cette victoire, est raconté en 2 rois 18. C'est intéressant parce que la Bible ne raconte pas que les victoires des hommes de foi, elle raconte leurs défaites. Ici, Ézéchias, il a été emmené en captivité. On lui a crevé les yeux, il a subi un jugement terrible, un châtiment terrible des Assyriens. C'était un peuple assez cruel, assez violent. Et cette victoire est mentionnée sur une pierre en dehors de la Bible et elle est mentionnée dans la Bible. Alors là, c'est des petits détails de l'archéologie, et c'est ça que j'aime dans l'archéologie. Des fois, ils trouvent un petit truc, mais qui veut dire beaucoup. C'est comme Colombo, hein, il résolvait ses affaires, l'inspecteur, avec des détails. Lui, il cherchait toujours le détail. Mais il dit, mais pourquoi il a mis 36 minutes au lieu de 33 minutes? Et grâce à ça, il trouvait le meurtrier. Eh bien là, dans l'archéologie, on a des petits détails qui montrent que la Bible est un livre vraiment basé sur l'histoire. Cette tablette en écrit cunéiforme a été retrouvée en Irak, toujours, près de Bagdad, et elle mentionne un officier du roi Nebuchadnezzar, le fameux roi de Babylone, et il s'appelle Nebo-Sarsekim, cet officier. C'est ce qui est marqué sur la tablette. Si vous prenez Jérémie 39-12, vous voyez qu'il est mentionné un officier du roi Nebuchadnezzar, Nebo-Sarsekim. Il faut le faire, quand même. Il y avait plein d'officiers du roi, il y avait plein de gens... Ils ont trouvé un vestige de cet officier qui est dans la Bible. Ici, c'est la plus ancienne trace d'un écrit qui est l'ancêtre de l'hébreu, qu'on appelle le proto-cananéen, et qui date du Xe siècle, l'époque du roi David. Donc, c'est une écriture qui est assez loin de l'hébreu, mais qui est en fait l'ancêtre de l'hébreu. L'hébreu est une langue qui vient en partie de l'égyptien et qui a évolué au cours des siècles, qui a été une langue morte, et c'est ça qui est un miracle. L'hébreu était une langue morte, comme le latin. Et puis, lorsque les Juifs ont été ramenés dans leur pays en 1948, ils ont fait revivre la langue hébraïque. Et donc, on parle israélien Ils ont dû inventer des mots pour tous les mots modernes, les voitures, les avions, il fallait inventer des mots, les autobus. Mais ils avaient une langue qui a ressuscité, on peut dire, hein, et donc dont on a retrouvé des traces. Le cylindre de Cyrus est très intéressant. Le roi de Perse, donc c'est l'Iran, hein, la Perse. Il y a beaucoup de liens entre Israël et la Perse dans la Bible. Cyrus II, donc Cyrus est probablement un titre plus qu'un nom. Et il parle d'un roi de Babylone qui s'appelait Nabonide. Donc la Perse est venue après Babylone, mais il parle du passé. Il dit qu'il y avait un roi qui s'appelait Nabonide. Et ça éclaire la Bible. Alors là, ça éclaire la Bible, parce que dans le texte biblique, il est dit que le roi a promis à Daniel, hein, le prophète, la troisième place du royaume. Il dit, si tu déchiffres, si tu découvres ce que ce rêve veut dire, je te donnerai la troisième place du royaume. Alors, qui a la deuxième? Si le roi a la première place, qui a la deuxième place? On ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf qu'avec ce cylindre, on apprend qu'il y avait une deuxième place, c'était Nabonide. Nabonide était le fils qui régnait en même temps que son père. Ça arrivait très souvent que le fils prenait un certain nombre d'années pour régner avec son père, pour apprendre le métier de roi. Et donc, il y avait Nebuchadnezzar, Nabonide, et du coup, Daniel n'avait plus que la troisième place qui lui restait, si on peut dire, ce qui est déjà bien. Et ça explique un passage de la Bible qui étonnait des fois les lecteurs. Pourquoi il a la troisième place seulement? Alors, la grande découverte, bien sûr, dont on parle dans l'expo, c'est les manuscrits de la Mer Morte. Vous voyez ici les caves de Qumran. Qumran, c'est un lieu près de la Mer Morte où tout est salé, tout est sec, tout est mort, tout est brûlant, il fait une chaleur accablante. Et certains juifs ont caché dans des jarres toute la Bible hébraïque dans ces grottes. Alors vous voyez, elle est inaccessible cette grotte. Regardez, il y a je ne sais pas combien de mètres là. Hein. Mais il y a une chèvre qui passait par là et qui a pu sauter dans une grotte en 1947. Et c'était un petit bédouin qui conduisait ces chèvres. Il courait après cette chèvre qui s'était sauvée. Et là, je pense qu'il y a la providence de Dieu, hein, qui a fait que cette chèvre s'est sauvée et a trouvé cette grotte. Et ils ont découvert tout l'Ancien Testament en hébreu. Mais ce qui est très important avec les manuscrits de la Mer Morte, c'est que ça a été daté entre 300 et 100 avant Jésus-Christ. Or, le texte hébreu qu'on avait jusque-là venait des Massorètes, c'était une tribu juive, qui datait du 10e siècle après Jésus-Christ. Et donc, on est remonté d'un seul coup de 1200 ans en arrière et on a eu le texte de la Bible 1200 ans en arrière. Alors tout de suite, dès qu'on a eu accès au texte, il y a des spécialistes des manuscrits qui ont voulu comparer le texte des Massorètes avec le texte des manuscrits de la Mer Morte. Est-ce qu'il y a eu des changements, des modifications? Et le résultat, donc il y a un archéologue israélien, Yigael Yadin, qui dit « Nous sommes ébahis ». Au temps de la Mer Morte, en plus, le texte hébreu n'était pas encore tout à fait fixé. Il y avait des livres, on ne savait pas s'ils étaient dans le canon ou pas. Mais il dit qu'il y a très peu de variantes entre ces deux textes. C'est le même texte, c'est la même Bible. Il n'y a pas de trucs rajoutés, bizarres, changés. C'est la même Bible parce que les copistes juifs ont fait un travail de grande fidélité. Donc, ces manuscrits ont été, encore une fois, des pierres qui crient, hein, qui répondent aux gens qui attaquent la Bible, parce que les gens disaient « Oui, la Bible a été falsifiée ». On entend beaucoup ça dans l'islam. Hein. Le Coran demande de respecter la Bible et l'Évangile, mais les imams disent « Oui, mais on ne peut pas le lire parce que ça a été falsifié par les juifs et les chrétiens ». Il n'y a aucune preuve, absolument aucune preuve de falsification de la Bible. Au contraire, on n'a que des preuves qu'elle a été fidèlement recopiée. Un des rouleaux découverts dans les manuscrits de la Mer Morte, c'est le rouleau d'Ésaïe complet et qui est exposé dans le sanctuaire de livres que j'ai visité. Vous avez tout le rouleau qu'on peut voir et on peut voir de ses yeux la réponse de Dieu aux critiques. On termine avec le Nouveau Testament. Il y a beaucoup moins d'images, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui disent que Nazareth n'existait pas au temps de Jésus. Voilà, vous avez des écrits sur Internet, dans des livres. Nazareth n'existait pas, c'est une ville qui a existé après. Donc, l'histoire de Jésus de Nazareth, tout ça, c'est faux, c'est des légendes. Encore une fois, l'archéologie répond. On a trouvé une maison, elle est datée du 1er siècle. Je l'ai vue, cette maison. C'est une maison typique de l'époque, avec en pierre. Une belle, celle-là, elle est belle en plus. C'est une grande maison assez riche. Voilà l'intérieur de la cour. Hein. Il fallait se protéger du soleil. On mettait tout à l'ombre, comme aujourd'hui. Dans la ville de Capernaum, qui est en Israël, on a découvert la synagogue où Jésus a lu la Bible. Alors ici, vous avez la synagogue romaine, mais juste en dessous, vous avez en pierre noire la synagogue du temps de Jésus, parce qu'entre-temps, les Romains ont reconstruit. Et donc, on a les pierres noires qui restent de cette synagogue où Jésus... Donc, sur cet endroit, Jésus a, à un moment, ouvert la Torah, ouvert la Bible. Il a lu dans Ésaïe 61, et qui parlait du Messie, bien sûr. Et il a dit, voilà, c'est de moi qu'il est question là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de mettre les pieds là où Jésus a lu la Bible, à Capernaum. Alors, il y a une maison à Capernaum qui a été retrouvée près de du lac de Galilée. Et cette maison, d'abord, date du 1er siècle. Ensuite, dedans, on voit qu'il y a des écrits chrétiens. Il y a des tags. Hein. Les chrétiens faisaient des tags. mais jolis. Pour marquer leur présence. Et il dit que c'était certainement un lieu de prière chrétien. Et puis, sur plusieurs tags, il y a le nom de Simon qui revient. C'est ce qui fait que certains archéologues pensent que ça pourrait être la maison de Simon Pierre, le disciple de Jésus. On n'a absolument pas de preuve absolue à 100%, mais c'est comme ça qu'elle est présentée en Israël par les Juifs qui ne croient pas forcément en Jésus. Hein, mais les archéologues ont dit qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments dans cette maison. Le fait qu'elle soit près du lac, qu'elle soit un lieu chrétien et qu'il y ait Simon partout écrit, ça nous fait penser que c'était la maison de Simon Pierre. Alors aujourd'hui, ils ont construit ce gros machin en béton dessus. C'est vraiment triste. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les archéologues ont retrouvé dans le lac de Galilée un bateau du 1er siècle des Galiléens, donc, qui ressemble au bateau de Pierre et Jean. Et voilà ce que ça donne en réalité. C'était un bateau de cette taille. Voyez. Et voilà le bateau qu'on peut voir aussi dans un musée qui a été conservé du 1er siècle. On l'a retrouvé parce qu'il y a eu une sécheresse et le lac est descendu et du coup, on a trouvé des vestiges. Il y a une crique hein, qu'on appelle la crique du semeur, où probablement Jésus a prêché parce qu'elle fait amphithéâtre naturel, vous voyez. Donc la foule pouvait se tenir là, et Jésus se tenait sur la plage à un moment, hein, les évangiles le disent, et lorsqu'il parlait, eh bien, toute la foule ici pouvait l'entendre comme dans un amphithéâtre. On a retrouvé le bassin ou la piscine de Bethesda, qui est mentionné en Jean 5. Alors, pendant longtemps, on n'avait pas retrouvé cette piscine, hein. Personne ne l'avait trouvé. Et donc, on disait, ah ben, c'est encore un truc des évangiles, il parle de la piscine de Bethesda, ça n'existe pas. Et puis, Jean mentionne 5 portiques. Et quand les archéologues ont fait les fouilles, ils ont découvert ce bassin, ils ont découvert 5 portiques, comme par hasard. Et donc, ça montre la précision du texte biblique hein, de l'évangile de Jean. Ça veut dire que la personne qui a écrit vivait à cette époque-là. Elle les a vus, les portiques. Elle n'est pas écrite 300 ans plus tard. On a retrouvé, de la même façon, le fameux bassin de Siloé où Jésus a guéri, hein, l'aveugle-né. On voit les marches hein, qui menaient jusqu'au bassin. Donc aujourd'hui, c'est juste des vestiges. Mais il y avait de l'eau là et des marches qui permettaient de descendre dans l'eau. Premier siècle. On a retrouvé l'effigie de César à Jérusalem. C'est une pièce avec César Tibère. Or, qu'est-ce que Jésus a dit hein ? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? Ben, regardez la pièce, elle a la tête de César, donc rendez-lui sa pièce. Hein ? Et puis à Dieu, rendez l'obéissance et la foi. On a trouvé le tombeau du roi Hérode. Hérode est très mentionné, hein, il y a plusieurs Hérodes mentionnés dans la Bible. Mais on a trouvé son tombeau, c'est assez récent la découverte. On le voit ici dans un sarcophage. Découvert en 2007, hein, c'est récent quand même. Jusque-là, on aurait pu dire, Hérode, est-ce que c'est une invention des évangiles ? C'est un mythe ? Est-ce qu'il a vraiment existé ? Ben, on a son tombeau avec son nom et dans un lieu très particulier qui prouve que c'est son tombeau à lui, pas le tombeau de quelqu'un d'autre. Si vous allez au jardin de Gethsémané, vous trouvez les fameux oliviers. Alors, ils n'ont pas 2000 ans, ces oliviers. Hein. Ils n'ont pas vu Jésus, mais ils ont quand même, vous voyez la taille qu'ils font. À mon avis, ils sont très, très vieux, peut-être 500 ou 600 ans. Et c'est rempli d'oliviers. Le jardin Gethsémané, en face de Jérusalem, est rempli d'oliviers, comme Jésus qui a prié avant d'être arrêté dans ce jardin si extraordinaire. On a trouvé une inscription, là encore, Ponce Pilate. Il est connu dans la société occidentale, parce que, à cause de quoi il est connu ? À cause de Jésus, à cause de la Bible. Mais en fait, dans l'histoire, Ponce Pilate était un sombre inconnu. Gouverneur de Judée, et la Judée, c'était vraiment un endroit où on vous mettait quand on voulait vous punir. Hein. Parce que les Juifs étaient tellement difficiles à gouverner que si on vous envoyait là, vous aviez des problèmes. Et Ponce Pilate, il s'est retrouvé là, mais il y a une preuve qu'il a vraiment existé, puisqu'il y a une inscription ici qui mentionne son nom, Pontius Pilate, gouverneur de Judée. Et c'est lui qui, bien sûr, a condamné à mort Jésus et l'a fait fouetter et ensuite crucifier. On a trouvé un ossuaire de Caïphe, le souverain sacrificateur du temps de Jésus, celui qui a condamné Jésus aussi, Matthieu 26. Alors, un ossuaire, c'est quoi ? C'est un coffre avec des os. Comment on enterrait les gens à l'époque ? On les mettait dans une sorte de grotte, qui était le tombeau. Hein. Et on mettait le corps, donc on l'embaumait d'abord, comme les Égyptiens. On l'entourait de linge et on le laissait là pendant quelques mois, voire quelques années. Quand le corps était complètement desséché, on prenait les os et on les mettait dans une boîte. Voilà. Et cette boîte, soit on la gardait à la maison quelque part, soit on l'enterrait. Et ça permettait de gagner de la place. C'est un peu le système des urnes, mais sauf que là, on n'était pas brûlés. Les Juifs, surtout, ne voulaient pas utiliser la crémation. Hein, il fallait être dans une tombe. On a trouvé les ossements d'un crucifié en Judée au 1er siècle. Donc, il a été daté du 1er siècle et il a été trouvé en Judée. Donc, c'est autour de Jérusalem qu'on a découvert cet ossement. Vous voyez comment les Romains mettaient le clou dans la cheville, sur le côté, pour que le clou ne tombe pas, parce que si vous le mettez mal, ça passe à travers, ça s'en va, avec une petite planche pour qu'il ne bouge pas. C'est affreux, hein ? Jésus a subi ses clous. On sait que les clous, il ne les a pas eus dans les mains, mais probablement dans les poignets, parce que là encore, les mains se seraient déchirées. Hein ? Donc la façon dont Jésus a été cloué est conforme à ce qu'on a retrouvé des croix romaines à l'époque, avec l'inscription au-dessus, et on mourait étouffé parce qu'on ne pouvait plus respirer, on était écartelé sur la croix et au bout de quelques heures, on n'arrivait plus à soulever ses poumons, sa cage thoracique pour respirer et on mourait parfois au bout de 2-3 jours d'étouffement progressif, le cœur s'arrêtait. Tout ça est dans les évangiles, mais surtout prophétisé aussi dans le psaume 22 par David. On a trouvé un tombeau, plusieurs tombeaux, semblable au tombeau que Jésus a pu avoir, où on roulait la pierre, vous voyez, on roulait la pierre devant l'entrée. Beaucoup de tombeaux à Jérusalem sont des tombeaux, sont des grottes en fait, hein, creusées dans le rocher ou alors des grottes naturelles et dans lesquelles on pouvait circuler et mettre les corps. Et on roulait une pierre devant, il y a des pierres carrées, des pierres rondes selon, et ces pierres pesaient, je sais pas, hein, une tonne. Hein. Donc Jésus n'aurait pas pu se réveiller et puis dire « je vais bouger la pierre ». Non, pas possible. On a fini. Je suis étonné. On a fait un parcours rapide, mais bon, quand même sérieux. Ma conclusion, c'est que à chaque fois qu'il y a des découvertes archéologiques autour de la Bible, à chaque fois, elles vont dans le sens de la Bible. Elles ne vont pas contre la Bible. Et donc, plus les savants trouvent, plus ça confirme l'authenticité du texte. Les archéologues sont unanimes, même les archéologues incroyants sont obligés de dire « La Bible, c'est quand même un livre incroyable parce que toutes les découvertes la confirment à chaque fois. » Même si eux, ils sont sceptiques, ils sont obligés d'avouer qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. L'archéologie biblique est en pleine expansion en Israël et donc en Irak, etc., et on va encore faire des découvertes, à mon avis, étonnantes sur David, peut-être Salomon. Salomon, on a peu de traces de son royaume. Et tout ce qui... Il n'y a pas à s'inquiéter si on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé des traces que ça n'a pas existé. Tout ce que dit la Bible est vrai, est inspiré. C'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé une pierre qui le prouve que ce n'est pas vrai. Hein. On n'a pas besoin des pierres. Mais ça peut toucher quelqu'un qui est un peu incrédule ou un peu sceptique. je peux vous dire que quand Dieu parle, c'est la vérité, que toute l'histoire d'Israël, l'histoire de Jésus, est basée sur l'histoire réelle, véridique, vécue, que ceux qui ont écrit les livres de la Bible ont vécu à l'époque où ils l'ont écrit. L'Exode, par exemple, contient un certain nombre de mots égyptiens de l'époque de l'Exode. Alors, nous, dans notre Bible française, on ne voit pas ces mots égyptiens. Mais ceux qui ont le texte original, l'hébreu, en fait, il y a des mots hébreux qui sont des mots égyptiens qu'ils ont mis avec des lettres hébraïques. Et il y en a une trentaine dans l'Exode, qui montre que celui qui a écrit l'Exode vivait en Égypte, connaissait l'Égyptien, Moïse. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça, extraordinaires, qui nous confortent dans notre foi. Alors, avez-vous peut-être une question, des questions, des remarques, peut-être ? Oui. Alors, on n'a pas de traces archéologiques d'Israël en Éthiopie. Les Falachas, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils avaient une culture juive, ils avaient la Torah, ils avaient des fêtes juives. Et l'Éthiopie, c'est rien à voir avec Israël, quoi. On disait, mais pourquoi ? Et en faisant des études historiques, culturelles, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait eu une influence juive et que peut-être ils étaient descendants des fameuses tribus perdues, hein, les 10 tribus, parce qu'Israël s'est divisé en deux. Hein, il y a eu 10 tribus qui ont été déportées, qui ne sont jamais revenues, et puis il y a les 2 tribus qui sont, elles, restées. Et donc ces tribus perdues ont été dans le monde entier. On a trouvé, par exemple, en Indonésie, les Karen, ils ont une culture juive. Et donc, ces Falachas font partie de ça. Par contre, le fait de trouver des traces antiques du temps de Moïse, ou je ne sais pas, en Éthiopie, je n'en ai pas connaissance. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que c'est bien plus tard que les Juifs sont venus en Éthiopie. Tu as plus de... Ouais. Les Karen d'Indonésie, c'est autre chose, mais ils avaient vraiment, pareil, la Torah, les fêtes, la Pâque, alors que c'est des Indonésiens. Bon, c'est vraiment étonnant, ces phénomènes dans le monde. Avez-vous une autre question ? Alors, c'est faux. Ce n'est pas un archéologue qui a trouvé ça et il a rien trouvé, en fait. Il n'a jamais pu montrer quoi que ce soit. C'est un escroc qui a découvert donc soi-disant les chariots. Il a découvert l'Arche de Noé et il a découvert le sang de Christ à Jérusalem. Il a fait analyser son ADN. Il a dit qu'il est du groupe AB ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Donc, c'est un gars qui imagine des choses ou qui escroque les églises, notamment. Il va d'église en église pour faire ses présentations. Impressionnante, c'est impressionnant ce qu'il dit. Voilà, et on voit des roues de chat. Et donc les archéologues sont allés. Moi, j'ai vérifié parce que j'ai dit, waouh, c'est impressionnant quand même. Et tous ceux qui ont été vérifiés, ils ont dit, il n'y a rien. Bon, peut-être c'est lui qui les a mises, ou je ne sais pas, mais bon. Donc on a une idée à peu près où ils sont passés, mais il n'y a aucun vestige parce que, comme je vous ai dit, c'est constamment inondé, séché. Ça ne pouvait pas rester comme ça au fond. Ce n'est pas juste au fond de la mer, hein, c'est vraiment dans un endroit balayé de tout vent. Donc, attention, il faut savoir que dans l'archéologie, il y a des gens qui parlent de découvertes qui sont fausses. Par exemple, c'était avec celui qui a fait le Titanic. Il a dit, on a découvert l'ossuaire de Jésus à Jérusalem, parce qu'ils ont découvert un ossuaire avec Jésus, fils de Myriam. En fait, ce n'est pas Myriam, c'est Mariamné, littéralement. Il dit, donc voilà, et Joseph. Et donc, il dit, Jésus, Marianne, Joseph, c'est le Jésus, c'est le Seigneur Jésus. Donc, ils ont dit, ça y est, on a trouvé son tombeau. Donc, ça fait tout un bruit, c'est passé dans les journaux. Ça, je ne sais pas dans quelle année, mais moi, je m'en rappelle. Hein. Et donc, il y a une archéologue, Jody Magnes, qui est une archéologue américaine, qui est une spécialiste des tombeaux de Jérusalem. Elle est tout de suite allée voir et elle a dit, c'est un tombeau, ça peut être le tombeau de n'importe qui. Des Jésus, il y en avait à l'appel, parce que c'est Josué, hein. Des Mariam, Mariam, c'est pas Myriam, c'est un autre nom, c'est latin, ça n'a rien à voir. Et surtout, on ne se faisait pas enterrer à Jérusalem si on venait d'une autre ville. Si Jésus avait été enterré, il aurait été enterré à Nazareth ou à Bethléem à la rigueur, mais certainement pas à Jérusalem. Donc elle a démontré vraiment, sans coup faire rire, que ça ne pouvait pas être le tombeau de Jésus. Donc il y a plein de choses comme ça qui sortent. Des fois, ils veulent prouver que la Bible est vraie. Il y a la stèle de Joas, le roi Joas. Et en fait, c'était un... Parce que ça se vend très cher, ces choses. Les collectionneurs sont prêts à payer des millions parfois. Vous dites, moi j'ai trouvé une pierre, la pierre avec les 10 commandements de Moïse. Ben, vous le voulez, vous le vendez 10 milliards. Hein. Et il y a des gens qui sont assez crédules pour croire que c'est les vraies pierres que Moïse... Donc voilà, la recherche de l'Arche d'Alliance, la recherche de l'Arche de Noé. On n'a pas trouvé l'Arche de Noé, on n'a pas trouvé l'Arche d'Alliance. On aimerait, nous, certainement, mais peut-être que Dieu ne veut pas. Ça pourrait devenir une idolâtrie, ça pourrait devenir un piège plutôt que... Dieu veut qu'on croie par la foi, en sa parole, la Bible. Voilà, donc... Mais donc, il n'y a pas de roue de chariot égyptien. Désolé. J'ai le nom de cet homme quelque part, mais bon, j'ai... Mais c'est des bonnes questions. Merci. Est-ce une dernière question ? Oui. Alors, c'est pareil. Ceux qui ont été... Alors, c'est difficile de se rendre sur place parce que l'armée turque veille beaucoup sur ce territoire. D'abord, c'est assez désertique dans la montagne, dans les monts Ararat. Mais surtout, il y a un conflit militaire là. Donc, il y a l'armée, vous ne pouvez pas vous promener comme ça. Mais il y a eu des expéditions. Et donc, c'est un morceau de terrain, comme ça, en forme de bateau, si on veut dire. Mais en fait, c'est une forme géologique. Ceux qui ont été sur place, ils ont creusé. C'est des pierres, voilà, il y a des pierres. C'est une forme de bateau, mais des formes de bateaux, vous pouvez en trouver partout. Alors, il y en a qui ont fait une expédition, ils ont dit, oui, mais on a ramené du bois qui a été daté du temps de Noé. Donc, c'est du bois qui probablement était le bois de l'Arche de Noé. Mais on n'a jamais vu leur bois, ils ne l'ont jamais montré. Il y a une expédition coréenne qui a fait aussi grand bruit. Et en fait, les scientifiques, les archéologues ont dit, montrez-nous les preuves que vous dites des grandes choses, mais on aimerait voir les preuves. Et en fait, ils n'ont jamais produit aucune preuve. C'était que des paroles. Et à la fin, ils ont dû se repentir. Ils ont dû dire, oui, on a un peu poussé. On voulait vraiment que ce soit l'Arche de Noé. Et ce n'est pas l'Arche de Noé. Oui. Mais je comprends tout à fait. Hein, vous êtes à Aix. Si les autres Aixois sont... Ouais. Merci, Jean-Paul, de ta présence aujourd'hui. Si vous devez partir, sentez-vous libre. Il y a peut-être une collation après ou pas ? Ah oui ! Alors ne ratez pas la collation. Et si vous avez des questions personnelles, allez-y. Sentez-vous libre.